Le Prince du 98.5, Danny May. Danny Dubé.
Ah, ben merci, Le Prince.
Comment ça va?
Ça va bien. Moi, je dis souvent à ma fille qui vient de... Je suis grand-papa depuis peu. Fait que je dis souvent que Le Prince, c'est le petit Félix. Tu sais.
Oui.
Elle habite dans un coin de Montréal, puis je prends le Prince of Bel-Air, je fais le même affaire. Ouais, ouais. Le Prince de telle région, tel coin.
Attention, pas tout gratter, là, grand-papa.
Ah, il n'y a aucune limite.
Aucune limite?
Non. Je crée des situations conflictuelles pour les parents je redonne le paquet.
Je t'haïrais, tabarnouche.
Ah oui, je te le dis, je suis convaincu de ça.
Je t'haïrais.
Mais le petit Pit, il aime son papy.
Oui, non, il l'aimerait pareil, Danny. Bon. Tu sais, t'es le gars qui quand même décrit les matchs du Canadien. Déjà là, t'aurais un edge, là.
Oui, je sais bien.
OK.
On verra.
Ouais. Alors, on va parler du Canadien tantôt, mais à tout seigneur de teneur, allons-y avec le match de la médaille d'or que tu vas être là tantôt pour décrire avec Martin McGuire. Mm-hmm. Écoute, je sais qu'au niveau des statistiques, on est en train d'établir des records, mais moi, je vais parler au niveau de la façon qu'on le fait, le crescendo qu'on est arrivé pour arriver avec ce point d'exclamation hier contre la Russie, c'est épatant.
Oui, tu as raison. Écoute, c'est vraiment impressionnant comme prestation. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que le Canada a frappé le mur. Tu sais, tu parles d'adversité. À un moment donné, l'entraîneur, il regarde les matchs, il regarde son équipe réagir. Il les a bien en main au départ. Là. Je trouve qu'il fait un superbe travail. Il les a bien en main. Puis tout le monde est synchro. Tout se passe bien. Écoute, ils ont perdu leur capitaine. Là.
Meilleur joueur.
Meilleur joueur. Et ça a pas, le bateau n'a pas branlé, pas du tout. Il n'a pas tangué. Ça a continué comme si rien n'était. Alors, évidemment, c'est une machine. Là. Cette année, on doit bien l'admettre. Mais ceci étant, la machine est huilée, est bien rodée. Puis moi, écoute, la seule chose que je pourrais te dire par rapport au Canada, c'est que la première mission de l'équipe américaine, ce sera vraiment de garder le pointage très bas, de s'assurer que le Canada ne retourne pas dans le vestiaire après la première période avec l'avance. Parce que ça a été ça. Oh, même un zéro, ça a été ça depuis le début du tournoi. Il n'y a pas une fois où ils se sont retrouvés à se poser la question, Non, jamais. Ils ont été en contrôle. Il y a eu des moments dans un match, oui, mais... C'est là, ils doivent, eux, les Américains, créer une zone où le Canada ne sera pas aussi à l'aise, aussi confortable. C'est pas évident à faire. Mais moi, je pense que les Russes, s'ils avaient eu un meilleur gardien ou un gardien plus en forme, là, pas un meilleur, parce que c'est un très bon gardien, Askarov a été très, très vulnérable. Côté de son gant, des tirs que normalement tu dois bloquer. Donc, il a placé son équipe un peu dans une situation de précarité. Après, ben là, c'est sûr que le Canada, la défensive qu'ils ont, la machine offensive qu'ils ont, ils sont capables de fermer le jeu puis de t'attendre, là, de te faire mal. Là. C'est exactement ce qui s'est produit.
Oui, je suis d'accord. Tu as raison. Je suis fan de gardien de but. Askarov aurait pu faire mieux. Mais le gardien, en moi, a envie de te dire, si les États-Unis veulent gagner, ils ont besoin de ne pas laisser rentrer le Canada straight au filet, comme sur le premier but, comme sur les deux autres buts où il a perdu son bâton parce qu'on est allé le bousculer, parce qu'on est passé dans son bleu. Mm-hmm. Je suis d'accord sur tout. Askarov, en plus, sous le gant. Écoute, il y a eu deux lancers sous le gant, au-dessus de la jambière, des lancers parfaits à part de ça. Mais la défensive américaine devra essayer de garder les Canadiens à l'extérieur parce qu'ils sont morts.
Mais en fait... Tu sais, c'était le je pense que l'espèce de réveil du Canada a commencé quand même assez tôt dans le tournoi parce que lorsqu'ils ont joué la République tchèque, c'était la mission numéro un. Je regarde mes notes là pendant que je te parle et c'est exactement ce qu'ils devaient faire. C'est d'assurer d'avoir un maximum de vitesse en zone neutre, éviter la barricade adverse parce que c'est des équipes qui jouent de façon très patiente en zone neutre. Alors, ils ont fait les ajustements nécessaires. Quand ils ont joué contre les Russes, on a l'occasion, et on l'en remercie d'ailleurs, André Tourigny, de lui parler avant les matchs. Et puis, c'est un élément que je voulais absolument discuter avec lui. Puis il m'a dit, écoute, tu as tout à fait raison. Nous autres, là, on ne peut pas se permettre d'attaquer la zone neutre avec une vitesse moyenne. Il faut avoir une vitesse optimale. Ça, ça va nous permettre d'attaquer le centre, donc le corridor central. Si on fait ça, on va le faire reculer. Si on fait ça, on va pouvoir exploiter de l'espace. Puis le reste, le talent va faire le travail. Mais il faut vraiment qu'on soit capable de mettre ça en place. Et écoute, ça a été numéro un. Maintenant...
Danny, avant que tu continues, moi j'aime ça, tu le sais, j'aime ça pousser un petit peu plus loin pour que les gens comprennent. J'adore ça de parler, puis je suis content parce que ça nous enlève des conversations. C'est un lieu, c'est un centre. Ce que tu viens d'expliquer pour que les gens comprennent, quand on barricade, mettons qu'on attend 4 joueurs à la ligne bleue puis qu'on a juste un gars en zone neutre, on est un peu statique. Donc, ce qu'André dit pour avoir de la vitesse maximale, c'est pour profiter de cette immobilité ou ce flottement parce qu'on est en attente au lieu d'être agressif sur l'échec avant. On veut profiter de cette attente-là. Ouais. J'aimerais ça que tu complètes ce que je viens de dire pour que les gens comprennent.
Là, admettons qu'on place pratiquement 4 joueurs entre la ligne bleue et les points de mise en jeu. Ils sont statiques ou ils ne vont pas vite. Là.
C'est
une barricade, c'est l'expression que j'utilise.
Ouais.
Là, ce que les attaquants ont à faire, c'est d'amener la rondelle le long de la rampe. Il faut que la passe soit faite à l'ailier. La plupart du temps, les équipes font ça parce que c'est la situation, si tu parles à la rondelle, t'es moins dans le trouble, tu sais, parce que, bon, c'est le long de la rampe. Et là, ça force le joueur que la rondelle, le long de la rampe, à l'envoyer derrière les défenseurs. Quand on fait ça, puis on est 4, bien, il y en a un pour aller chercher la rondelle.
C'est ça.
Lorsqu'on attaque le centre, personne ne sait quoi faire parce que là, tu attaques entre les attaquants au départ. Fait que là, les attaquants regardent chaque côté. C'est moi qui y va. Et aussitôt qu'on attaque entre deux défenseurs dans le centre de la glace, les deux défenseurs sont compromis. Ils ne savent pas lequel doit y aller. Écoute, tout mon hockey international, puis j'ai eu la chance d'en faire pas mal, là, ça, là, c'est une zone critique. Parce que défensivement, les joueurs arrivent au banc, Martin, puis ils disent « Est-ce que c'était mon joueur? »
Ouais.
Est-ce que c'était ma responsabilité?
Ou ça se dit, c'était le tien!
Je l'ai, non, prends-le. Il est rendu sur ton bord. Fait que nous, ce qu'on avait mis en place à l'époque, on disait, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui se compromette. Celui qui va être le plus près du porteur, distance de bâton, dans ton corridor, le plus près, il doit absolument se compromettre, c'est-à-dire qu'il doit pousser, fermer le jeu. Ensuite, l'autre recule, prend le centre, et là, automatiquement, on va forcer l'adversaire à prendre des décisions. Ce que les Russes ne font jamais. Les Russes, qui ont fait, c'est qu'eux autres, ils attaquaient pour essayer d'aller les chercher le long des rampes en zone neutre. Aussitôt qu'on s'est mis à rentrer dans le centre de la glace, là, c'était dramatique. Mais maintenant, je reviens à nos Américains d'aujourd'hui.
Oui.
Eux, les Américains, la force qu'ils ont, c'est qu'ils sont habitués de jouer dans un système d'échecs avant serré. Parce que dans les collèges américains, malgré il y a quelques joueurs qui jouent au Canada, là, dans la Ligue canadienne de hockey, mais de façon générale, c'est les gars qui sont habitués sur l'échec avant. Donc, eux, ils vont essayer de défier les défenseurs canadiens, qui sont très bons. Ils vont essayer de mettre de la pression pour éviter, justement, qu'on ait de la vitesse en zone neutre. Donc, on va essayer de pousser cette défensive pour provoquer des erreurs, des longs jeux, peut-être même des revirements. Donc, on va prêter l'expression « challenger », on va vraiment presser la défensive parce qu'on ne veut pas les voir, les Canadiens, arriver avec autant de vitesse en zone neutre. Il faut les ralentir. Alors, les ailiers vont se faire bousculer en sortie de zone. Tu sais ce qu'on appelle le fameux « pinch », ben moi, j'appelle ça le jeu souricière. Pour dire aux gens, ça veut dire que l'ailier du Canada, il va avoir le défenseur qui va venir vers lui pour l'empêcher de patiner avant même qu'il sorte de la zone, quand il est le long de la rampe, là, à la hauteur des oreillettes. Il va venir le chercher là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il patine avec la rondelle.
Exact. Non, puis écoute, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis quand tu dis qu'on ne veut pas, c'est une affaire vouloir faire quelque chose. Parce que d'après moi, les Russes, c'est pas ce qui est arrivé hier qu'ils voulaient avoir. Mais de le réaliser, c'est là qui va être la talle pour le problème pour les Américains. Avec ce qu'on a vu des Américains, est-ce qu'ils ont les effectifs? Parce qu'après ça joue sur la glace. Est-ce qu'ils ont les effectifs pour rivaliser avec le Canada?
En fait, ils ont les effectifs s'ils prennent l'avance. Je pense vraiment qu'ils sont capables de fermer le jeu, d'avoir un système de jeu ou un style de jeu qui leur permet de contenir l'adversaire. Ce ne sera pas facile contre le Canada. Je pense que leur gardien, Spencer Knight, est capable d'avoir une grande performance. même si ça a été en dents de scie depuis le début du tournoi. Je pense que c'est un bon gardien. Je pense qu'il est capable d'avoir ce type de prestation-là. Puis lui, ben, c'est une grande confrontation parce que même si Lévesque a été repêché en septième ronde, mais par la même équipe.
Ouais.
Fait que lui, il doit quand même justifier là, son rang. T'sais, lui, il, normalement, là, tu regardes le gars de l'autre côté, tu dis, bon, c'est le défi du gardien, c'est moi contre l'autre gardien. Même si c'est les joueurs que tu affrontes, tu veux être meilleur que celui qui est en face de toi. Puis dans le match d'aujourd'hui, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ceci étant, je reste convaincu du vieil adage. Si après la première période, le Canada est en avance, ça va être bien difficile pour les Américains qui ont eu une production offensive correcte, mais pas à la hauteur de celle de l'équipe canadienne. Ça va être plus difficile une fois que tu vas avoir passé les Turcotte, les Seagrass, Z-Grass et compagnie. Là, tu as deux, trois gars qui produisent. Caulfield fait partie de ceux-là. Lui aussi, il y a un enjeu. Là. Caulfield, il y a un enjeu de connaître un grand match. Lui était correct depuis le début du tournoi, mais ça ne transcende pas. C'est pas grave, là, c'est un jeune joueur, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est une tribune. Là, c'est un big stage, comme ils disent eux autres.
Oh, ouais, il n'est pas niaiseux, il sait en plus.
Il est tout sauf niaiseux. Là, exact. Ça, c'est sûr.
OK, pendant qu'on jase, la Finlande a créé l'égalité. Qui d'autre? Lundell, encore une fois, qui crée l'égalité pour la Finlande contre la Russie. On est rendu avec 12 minutes à faire en deuxième période. C'est 1-1.
Martin, il faut absolument que les gens s'amusent à aller lire sur le hockey finlandais, voir tout ce qu'ils font là-bas. Écoute, c'est une puissance mondiale, puis il n'y a pas plus de joueurs, ou très peu, là, un petit peu plus, mais presque pas. C'est pratiquement le Québec, là.
Ah non, c'est hallucinant.
Alors, eux autres, là, écoute, leur programme de développement, toutes les choses qu'ils ont mis en place,
et que tu ouvres une canne de bine, tu sais. Hein?
Yeah. Oui, je sais, puis je suis pas en train de dire qu'au Québec, on est nounou, là, on fait plein de bonnes choses, mais je pense sincèrement que si tu veux faire partie de l'élite, t'es condamné à l'excellence. Le seul, tu peux pas parce que t'es petit, parce que t'es une petite province ou, tu sais, ou par rapport à d'autres puissances, tu peux pas te contenter de dire on n'est pas si pire. Tu peux pas penser comme ça. Et donc, il y a un tas de choses qu'on fait en Finlande, surtout pour protéger l'aspect plaisir en jeune âge, surtout pour développer l'éthique et l'importance d'être un bon coéquipier. Il y a plein de programmes en parallèle qui font que les joueurs, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils ont déjà bâti un sentiment d'appartenance et tout ça. Tu sais,
ça prend du temps avant qu'on joue des matchs, Danny. On développe les qualités individuelles.
Oui, ça fait longtemps qu'on est sur des demi-glaces là-bas, sur des portions de glace. Ça fait longtemps que le nanan, dont la petite carotte qu'on donne aux jeunes, c'est d'organiser ce qu'on appelle une journée de hockey ou un hockey jamboree sur deux jours. Et là, tu as le droit de jouer sur toute la patinoire. Mais le reste du temps, là, avant 13 ans, tu joues pas sur des glaces complètes à l'année. Là, tu joues, on varie. Et puis là, ça nous permet de travailler sur des aspects, sur des phases de jeu, etc. Donc, moi, je pense que si la Finlande, avec un si petit nombre de joueurs, est capable de faire aussi bien, il faut surtout regarder la structure. Parce que quand même, là, il y a toute la question de le récréatif versus le compétitif. Puis après ça, qu'est-ce que tu définis comme étant l'élite?
Oui, bien c'est ça. Mais là, école, je te l'ai dit, là. Tu rouvres une canne de bine, je te ferai un show là-dessus. Là. Les Robert, là, qui eux autres, ils aiment ça, faire du hockey, puis coacher des moustiques ou des atomes, puis les garder sur le banc en championnat parce qu'ils veulent gagner. Épalaï! Écoute, on va arrêter ça là, parce que
Est-ce qu'on a besoin de tournois dans le moustique? T'sais, est-ce qu'on a besoin d'avoir un gagnant dans le moustique? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un classement dans le moustique, dans les atomes? Est-ce qu'on a besoin d'avoir les buts et les passes pour un atome?
Arrête!
On se dit ça de même.
On est de retour en compagnie de Danny Dubé. J'étais en conversation avec le boss, j'étais après à dire, écoute, je me suis marqué quatre sujets. On en a fait un. Là, quand tu vas être en studio tantôt avec moi, là, t'as besoin d'être discipliné, mon Danny Dubé.
Okay.
OK, Canadien, je te dis ce que moi, dans les points de presse, Gallagher également, on a eu Suzuki, on a eu Claude Julien, je retiens un commentaire de Claude Julien en parlant de Corey Perry. Il a dit, Perry sur un trio avec Poehling, parce que la question était au sujet de Poehling. Il dit présentement, Poehling reçoit de l'éducation, de l'information. C'est très bon pour Ryan Pellings qui vit présentement. À gauche, il y a Frolic, qui est une bête d'entraînement, un vrai professionnel. Puis il y a Corey Perry. Je te l'annonce, si jamais après la pratique, Pellings veut dire à Perry, « Hey, on va jouer à Fortnite après? » Il va te recevoir une tape en arrière du chapeau. Est... Fait que, tu sais, pour 750 000 pour des peanuts, là, ils viennent de rendre service à son organisation en maudit Marc Bergevin, juste pour Pellings, qui vit présentement.
Oui, ça, c'est vrai dans la mesure où faut quand même que tu protèges Perry. Parce que Corey Perry, il faut que tu lui donnes la chance de maintenir son statut. Ça, c'est une affaire qui est vraiment importante, Martin. Parce que tu peux pas dire aux joueurs, OK, tu vas avoir de l'influence chez les jeunes si tu n'as pas d'influence à la glace. Donc, pour ça, il faut que le joueur ait de l'importance. Fait que moi, je pense que dans l'espèce de tu sais, dans toutes les... c'est un casse-tête, là. C'est pas évident, là. Il va avoir des décisions qui vont être prises en cours de route, c'est sûr. Il va avoir un étalement de la charge de travail, ça, c'est clair. Alors, on pense pas qu'on va s'en aller avec un alignement pendant tous les 56 matchs puis qu'il n'y aura pas de mouvement. Mais une chose est sûre, il faut absolument, absolument, dans le cas surtout de Corey Perry, de l'avoir puis de l'avoir dans un contexte où il se sent bien à propos de lui-même.
Okay.
Parce que le joueur, c'est une personne avant tout. Une personne qui ne se sent pas bien à propos d'elle-même, elle ne commence pas à essayer d'aider les autres. Là. Essaye de s'aider elle-même. Puis si elle essaye de s'aider elle-même, elle essaie d'aider les autres, puis elle n'est pas bien elle-même, c'est en train de se faire une thérapie. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut, au départ, que tu sois bien avec toi-même comme joueur. Donc, ton niveau de contribution, c'est toujours ce que tu as fait récemment dans l'équipe qui va faire que les gars vont te regarder avec les yeux que tu espères qu'ils vont te regarder. Le regard qu'ils vont utiliser, les lunettes qu'ils vont porter lorsqu'ils vont porter leur regard sur toi. Puis c'est vraiment, vraiment important parce que ce gars-là, c'est un grand compétiteur. Lui, là, il a gagné. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui là, qui ont gagné partout. Là. T'es une main, t'en as assez. Là.
Il y en a deux.
Oui.
Lui, Scott Niedermayer qui ont gagné tout ce qu'ils ont gagné.
Exactement, tout à fait. Ils ont tout gagné. Oublie, ils ne cherchent rien, là. Ils font le tiroir. Ben, je pense, d'après moi, là. Et ils jouaient aux échecs quand il y avait 2 ans puis ils gagnaient.
Exact.
Ils ont gagné partout.
Chez-y inclus.
Inclus. ces gars-là, c'est précieux dans une organisation, mais il faut avant tout que ces bonhommes-là sentent qu'ils peuvent encore contribuer. Et les premières personnes qui vont avoir à leur donner un petit coup de main pour permettre ensuite aux coéquipiers de les aider, c'est le personnel d'entraîneur. Puis là, ça va des deux bords. Tu sais, le coach, il va dire, aide-moi à t'aider. Là. Tu sais, à un moment donné, parce que, oublions pas une chose, l'année passée, il a joué 56 matchs, Perry a fait 5 buts.
Oui. Mais on se souvient des séries.
Oui, monsieur. D'accord avec toi.
Il y a un aura pas, encore.
Mais tu peux pas dire que tu vas t'en servir comme un grand leader si je ne donne rien pendant toute l'année.
Exact. Faut qu'il soit...
Il y a un marchandage. Là. C'est le point que je veux mettre en perspective. Peut-être que ça va être facile de dire, écoute, on va dire, mon Corey, là, Carey Price, il joue même pas tous les matchs. Tu sais, d'habitude, il en jouait, mettons, 60. Bon, là, cette année, là, le ratio, c'est, mettons, 42 matchs. Il aurait joué, ben, sais-tu quoi? Il va en jouer 35. Fait que toi aussi, tu vas faire comme les autres. Si t'en as un de même, là, c'est plus facile de le dire quand t'as des vedettes qui acceptent de le faire. Puis je pense que cette année, c'est le bon timing pour ça. On est vraiment dans un contexte où on va pouvoir gérer ces choses-là. Mais je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est inestimable là, ce qu'il peut donner aux vétérans, aux recrues, là, un vétéran comme ça. C'est inestimable. Tant qu'il produit puis il fait partie de l'équation, il se sent bien dans l'équipe. T'sais, ça ne veut pas dire qu'il joue tous les soirs, mais quand il joue, il faut vraiment qu'il sente qu'il y a de l'importance.
Puis on comprend qu'il s'en vient pour aider un avantage numérique. C'est, dans tous les points de presse, c'est ça qui ressort à chaque fois. Là.
Écoute, aujourd'hui, là, c'est... ils ont fait monter, ils ont amené sur la glace l'avantage numérique au départ, avant que tout le monde embarque, juste pour développer des espèces de patrons de jeu, puis bon, et Perry était avec eux autres. Puis à la fin de l'entraînement, bon, il y avait des stations, un gardien de but travaillait dans le bord. Il y avait un joueur devant le filet de l'autre côté avec les défenseurs, c'est Corey Perry. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en avant, puis il disait au gars, lance-moi là, fais-moi dévier. Puis il faisait dévier des rondelles. Son pain et son beurre, c'est ça, il sait. Il est là, il le fait. Vraiment, là, tu sais, moi, je pense que, tu sais, je me fais pas d'idées, là, c'est comme je t'ai entendu le dire l'autre soir, là, après le match, je revenais chez nous, je t'écoutais, c'est plus joueur de 50 buts, là, c'est même plus joueur de 30 buts, là.
Ah non.
On se calmait, là.
Tu sais, je veux pas faire appel à personne, là, la rumeur veut que, tu sais, Anaheim, lui, il arrivait pas en forme. Lui, c'était un des derniers qui se servait du camp d'entraînement pour se mettre en forme.
Oui. C'est pas un ange, là.
C'est pas un ange.
C'est pas un facile, mais tu gagnes pas avec des faciles. Tu gagnes avec un mélange. Ça t'en prend quelques faciles, là, mais pas toutes des faciles. Puis lui, c'est pas un facile.
Non, sauf que quand c'est le temps de la game, il est sa job.
Oui, monsieur.
Puis il va dans des endroits où ce que le peu de gens veulent aller, etc. Fait qu'il fait la job. OK. Nick Suzuki, bien sûr, était un des sujets parce qu'il s'est présenté au point de presse, parce que Claude Julien en a parlé également. Moi, je vais être honnête avec toi, Danny, je suis pas du genre à vouloir économiser ou faire attention à Nick Suzuki. C'est mon meilleur joueur de centre. Ça va être mon plus productif. Il a l'attitude pour. Let's go.
Ah oui, écoute, c'est un gars qui... c'est un diamant brut, là, parce qu'il est encore en développement, absolument. C'est sûr. La position de centre, ça va y prendre une autre année au complet avant d'être bien dans son rôle, surtout à Montréal. Mais c'est un gars qui va tout faire avec le Canadien. Puis c'est un joueur de centre très polyvalent. Écoute, je regardais à l'entraînement, là, les rondelles qu'il récupère autour du filet, sa vision de jeu. Il est calme, tu vois qu'il est bien, là, tu sais, il est à sa place. Puis écoute, Kotkaniemi a beaucoup progressé. J'ai aimé là, ses sources des entraînements. Mais je trouve que lui aussi, là, physiquement, il est très imposant. Puis avec la rondelle, c'est un joueur qui est très habile. Donc non, écoute, la ligne de centre est en santé chez le Canadien en termes de. Si on regarde sur une perspective à plus long terme, là. Puis maintenant, ça va être juste de créer de la stabilité à ce niveau-là. Je pense que pour l'instant, en tout cas, l'équation d'Ano, c'est encore important. Il fait encore partie de l'équation de succès du Canadien. J'espère qu'eux vont trouver une façon là, de régler leurs différends. Ouais, ouais,
absolument. Écoute, il reste moins d'une minute. Je veux juste te rappeler que quand j'ai appelé André Tourigny quand le Canadien a fait l'acquisition de Nick Suzuki.
Ouais.
Parce que Nick Suzuki venait d'éliminer pratiquement lui seul Tourigny dans la OHL. Il me dit, pense à Ryan O'Reilly. Je veux juste vous rappeler qu'il avait coaché O'Reilly au Colorado.
Oui.
Fait que s'il devient une bête d'entraînement comme O'Reilly, je pense qu'on va être content.
Oui. Oh, s'il devient O'Reilly, on va être bien content.
Martin McGuire est arrivé, Danny. Il a un message pour toi.
Paye le café.
Deux laits.
OK.
Bye.
Bye.
Martin s'en vient. Bye, Danny.
Bye.